Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous commençons une nouvelle série et cette série d'études est donc concernant le réveil. Nous allons voir ensemble plusieurs études bibliques concernant le réveil. Je parle du réveil dans toute l'histoire, mais également le réveil final qui doit arriver bientôt. Bien sûr, nous sommes conscients que le 90% des chrétiens actuels, je dis actuels parce que c'est plus la même chose qu'il y a 30 ans, ne vont ni aimer, ni accepter les études que vous allez entendre. Il est donc très important que vous essayiez de noter, d'inscrire les citations bibliques que vous allez entendre pour que vous puissiez vérifier vous-même dans vos Bibles si on ne vous raconte pas une philosophie personnelle. Pour autant encore, pour ceux qui croient que la Bible, c'est la parole de Dieu. Là aussi, il y a un bon nombre qui ont des idées totalement négatives à ce sujet. C'est pas étonnant avec tout ce que les scientifiques veulent prouver. À travers le monde chez nous, ou parmi les autres nations, partout, on entend le même appel venant des cœurs affamés et assoiffés des enfants de Dieu. Et on peut vraiment dire ce qui a été dit avec beaucoup d'emphase et de sincérité dans Ésaïe chapitre 64, verset 1. Ô éternel Dieu, si tu fendais les cieux, si tu voulais bien descendre. Ça veut dire toutes sortes de choses. Dieu descendant parmi les hommes, c'est ça, le réveil. C'est sa présence au milieu de son peuple. Présence tangible, puissante et bien au-delà de tout ce que nous avons vécu jusqu'ici. Cette présence inonde l'âme, car elle est semblable à l'ouverture d'un gigantesque, ou plutôt d'une gigantesque écluse, une écluse dont les eaux nettoient carrément tout obstacle à la volonté de Dieu. Dieu manifeste sa puissance dans le réveil. Il prouve ainsi à l'homme, dont les capacités sont limitées, que lui seul est toujours souverain. Sa présence fait fondre, telle de la cire, les montagnes d'obstacles, de préjugés et d'incrédulité. Le réveil peut se comparer à un puissant volcan dont l'éruption jaillit à des centaines de mètres en l'air, produisant des rivières de feu et recouvrant certaines villes et villages de lave, sans que l'homme, dans sa faiblesse, puisse intervenir. Et vous savez que c'est vrai, que c'est vraiment une réalité, que nous sommes incapables de lutter la contre. Et on n'a pas tout vu, le pire est à venir. Aucun homme, aucun démon ne pourra empêcher le prochain puissant réveil. Actuellement, nous pouvons déjà discerner les grondements de la terre sous nos pieds. Nous avons jeûné, nous avons prié, intercédé, ce que nous devons faire plus que jamais, et Dieu a parlé. Et nous savons que ses promesses s'accomplissent toujours. Dieu se prépare à descendre des cieux, et lorsqu'il le fera, les montagnes déverseront sa présence. Tous les fleuves d'iniquité envoyés contre lui par Satan et ses anges déchus, que on nomme maintenant les démons, deviendront comme une buée de vapeur. Et cela face au feu que le réveil provoquera et qui feront bouillonner les eaux, qui feront connaître son saint nom à ses ennemis, en sorte que les nations trembleront devant lui, selon Ésaïe, chapitre 64, verset 2. Oui, Dieu fera les choses que nous n'attendions pas. Il fera les choses redoutables, afin que les hommes rendent hommage à son saint nom et qu'ils reconnaissent sa grandeur. Il prouvera au monde qu'il est Yahvé l'Éternel, qu'il est votre Dieu. Il accomplira des choses que nous n'attendions pas du tout, selon Ésaïe chapitre 64 verset 3, et qui sont au-delà de tout ce que nous demandons ou que nous pensons. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Oui. Nous allons citer quelques exemples. Premièrement, Dieu bénira, mais également il tranchera. Deuxièmement, Dieu manifestera au monde sa miséricorde, mais également sa colère. Troisièmement, il guérira et il bénira. Quatrièmement, il créera, mais également il détruira. Cinquièmement, il fera naître, mais il fera également mourir. Sixièmement, il plantera et il arrachera ce qui a été planté. Septièmement, il construira et démolira les constructions d'hommes. Huitièmement, il jettera des pierres et il rassemblera des pierres. Or, ces pierres vivantes seront embrasées, provenant de toutes les nations et qui attendent sa venue. Neuvièmement, il entourera de ses bras tous ceux qui souffrent et qui sont seuls et rejetés. Et il rejettera tous ceux qui ont occasionné la souffrance, qui ont occasionné l'isolement et le rejet. Dixièmement, il se fermera et refusera d'entendre les cris de certains, comme il a refusé de parler à Saül dans 1 Samuel, chapitre 28, verset 15. Et il entourera d'autres de prévenance et même de mots d'amour. Onzièmement, il réunira ses joyaux tel un homme rassemblant tous ses trésors et il jettera ce qui est imitation ou du toc. Douzièmement, il manifestera son amour et il révélera sa désapprobation comme jamais auparavant. Et treizièmement, il fera la guerre, c'est vrai. Et au milieu de la guerre, voici qu'il mettra la paix dans le cœur de tous les siens. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, jusqu'au verset 8. C'est cela le réveil, c'est cela le temps qui est venu pour que ces choses puissent s'accomplir maintenant. Chers amis, voulons-nous vraiment le réveil? Sommes-nous prêts pour le réveil? Sommes-nous prêts à en payer le prix? Notre amour pour Dieu va-t-il vraiment jusque-là? Sommes-nous d'accord pour voir des changements de grands et terribles changements, des changements dans nos propres vies et dans notre travail, des chocs carrément culturels? Certains pensent être prêts, mais ils ne le sont pas vraiment. Toute leur vie, ils ont prié pour le réveil. Mais quand le réveil arrive, ils sont les premiers à le rejeter parce qu'il leur manque cet esprit jeune, cet esprit ouvert et enthousiaste, zélé, qu'exige le réveil. Ils n'ont pas non plus cette consécration nécessaire face à l'opposition et à la persécution qui accompagnent toujours la venue d'un véritable réveil. Pourtant, l'appel au réveil se fait vraiment entendre, car il y a ceux qui sont prêts à payer le prix. Le Père a envoyé le Saint-Esprit dans le cœur de ses enfants et leur donne la mission d'intercéder en faveur du réveil. Cet appel venant du Saint-Esprit sera entendu d'un bout à l'autre du ciel. Il montera de tous les coins de la surface de la terre et c'est le son de la voix de l'Esprit-Saint lui-même. Aucune langue, aucun dialecte ne sera privé d'exprimer cet appel du Saint-Esprit en faveur d'un réveil, car c'est le cri de l'homme ayant vraiment besoin d'être réconcilié avec son Dieu et son Créateur. Cet appel profond au réveil retentit non seulement dans le cœur de l'homme, mais aussi dans le cœur de Dieu qui le désire vraiment intensément. Lorsque Dieu voit l'homme trébucher, chanceler, et même tomber sous le poids de ses propres efforts de survie, il lui tarde de nous voir abandonner nos artifices religieux, de nous voir abandonner nos traditions et notre cinéma religieux pour crier sincèrement à lui. Lorsque nous serons vraiment touchés au plus profond de nous-mêmes, que nous verrons combien nous sommes pauvres, misérables et nus quant aux choses de l'Esprit Saint, et que nous réclamerons sincèrement une visitation de Dieu, il fendra sûrement les cieux et il descendra et les montagnes se fondront sous lui et les vallées s'entrouviront, on peut dire s'entrouvrir, comme la cire devant le feu, selon Michée chapitre 1 verset 4. Excusez-moi de mettre en couplet avec le mot de s'entrouvrir, parce que, étant de langue allemande, des fois, ça cloche. Bref, chers amis, la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, « Voici, c'est maintenant le temps favorable. Voici, c'est maintenant le jour de salut. » Qu'est-ce que le temps favorable, je vous le demande? Cela vient du mot grec qui veut dire être bien accepté ou favorable, approuvé, un temps de grâce. Et ce verset de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, ce verset fait allusion également à Ésaïe, chapitre 49, verset 8, où il est dit « Ainsi dit l'Éternel, à un temps agréé, je t'ai répondu, et au jour du salut, je t'ai secouru. » Oui, c'est un grand plaisir bienveillant, grâce et de la faveur. C'est le mot qui est utilisé dans Exode chapitre 28, verset 38, lorsque Dieu montre qu'il est d'accord, qu'il agrée le souverain sacrificateur lorsqu'il se présente devant lui dans le lieu très saint, en portant toute l'iniquité d'Israël, en portant les péchés du peuple. Il est important que les mots « sainteté à l'Éternel » soient vraiment inscrits sur son front, car sans cette sainte parole du Seigneur, il n'aurait pas pu être accepté devant Dieu. Cette sainte parole rendait Aaron acceptable devant Dieu, malgré le nombre de péchés portés par lui, rappelez-vous tout à l'heure, jusque dans la présence de Dieu, alors qu'il était, on peut dire, une image de Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui qui porterait plus tard tous nos péchés, vos péchés ainsi que les miens. Et c'est pourquoi je lui assignerai, est-il dit, une part avec les plus grands et qu'il partagera le butin avec les forts parce qu'il aura livré son âme à la mort, qu'il aura été compté parmi les transgresseurs et qu'il a porté les péchés de plusieurs. Ésaïe, chapitre 53, verset 12. Ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché cette fois-ci, sans péché à salut à tous ceux qui l'attendent. Hébreux, chapitre 9, verset 28. Qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous puissions vivre à la justice par la meurtrissure duquel vous avez été guéri. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Oui, chers amis, que signifie pour nous le temps favorable? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que lorsque le péché aura partout abondé et que sera remplie la coupe d'iniquité, le temps du péché sera terminé et le jour des expiations arrive. Et c'est là que les intercesseurs appelé au ministère sacerdotal, qu'est celui de porter l'homme pécheur devant le Dieu saint, doivent être couverts de sa sainteté afin d'être acceptés par lui, qu'ils reçoivent favorablement leurs requêtes et à cause de sa miséricorde et de sa grâce, il les bénira. Eux et l'humanité tout entière. Devenons, chers amis, je vous le demande, des intercesseurs. C'est peut-être trop vous demander. Va savoir. Quand sa coupe d'iniquité est remplie, une nation, elle touche vraiment à sa fin. Car jusqu'ici, jamais les péchés des nations n'ont été aussi grands et aussi terribles qu'aujourd'hui. Même des leaders religieux de haute célébrité accordent maintenant le mariage aux, je ne veux pas dire leur nom, mais à ceux qui commettent les mêmes péchés qu'au temps de Sodome et Gomorre, et accordent même que les femmes puissent avorter, faire n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Voyez-vous, ce n'est pas le tout d'être un leader religieux important, car la religiosité ne sauve personne. Le péché a corrompu les églises, les gouvernements, l'éducation nationale, même la médecine et la science. Le péché a corrompu même aujourd'hui les armées, les foyers et les familles. En fait, il n'existe aucun domaine de nos vies qui n'ait pas été corrompu par le péché. Le docteur Sterling raconte son rappel brutal à la réalité dans son livre « Le complot contre la famille ». Et voici ce qu'il dit. Écoutez bien. En tant que conseiller conjugal et familial, l'idée m'enthousiasmait de pouvoir assister à une conférence sur la famille présentée par l'une de mes associations professionnelles. Mais une fois là-bas, je n'en ai pas cru de mes oreilles d'entendre le présentateur approuver la fin de la famille traditionnelle. Ce que j'ai entendu les 3 jours suivants a été encore plus alarmant. D'après eux, la foi était absolument nocive. L'avortement est encouragé comme étant le moyen de contrôle des naissances. Et l'homosexualité est justifiée comme étant une autre manière de vivre. L'autorité parentale était totalement réfutée. Les valeurs morales devaient être déterminées librement selon les circonstances. Le bien et le mal n'existent pas en tant que tels, mais tout dépend des situations. Le rôle de l'éducation était celui de diriger la jeunesse vers un mode de vie plus éclairé. L'expansion de la puissance et l'envergure du gouvernement ressoudraient tous les problèmes de l'humanité sans en créer d'autres. Le paragraphe mentionné ne décrit que très brièvement le péché et la rébellion qui sont en train de détruire notre société. Pour que le péché puisse dominer, la foi en Dieu, elle doit être totalement éliminée, anéantie. Elle est ridiculisée comme étant une sorte d'opium, la drogue du peuple. L'avortement, qui n'est rien de moins que le meurtre d'enfants innocents, l'avortement est encouragé comme limitation des naissances. La sodomie, cet acte que je citerai, ça n'engage que moi, pardonnez-moi, que je pense, et c'est une chose écœurante, c'est une perversion sexuelle. La sodomie est considérée comme étant une autre façon de vivre. C'est même des grands et importants leaders religieux qui le disent. Bientôt, la pédophilie et le viol, si souvent accompagnés de tortures et d'assassinats, resteront impunis à cause du relâchement grandissant des lois et de ceux qui les mettent en vigueur, étant souvent mêlés eux-mêmes à ces pratiques sordides. Je ne sais pas si je dis la vérité, je présume qu'une jeune fille qui m'a téléphoné il n'y a pas longtemps, son entre guillemets fiancé lui a donné un tel coup de poing sur le nez que le nez a été cassé. Elle a dû aller à l'hôpital. Est-ce que c'est ça, l'amour? Oui, vous voyez, je veux vous dire une chose que vous allez presque pas croire. ceux qui nous dirigent, qui dirigent nos états autour de nous, sont eux-mêmes souvent mêlés à toutes ces pratiques sordides. Il y a pas si longtemps, il y en a qui ont été jugés, mais ils ont été acquittés, malgré qu'ils ont fait des choses très peu orthodoxes, comme on dit parfois. Ils ont été acquittés. La sorcellerie, écoutez bien, et tout son culte à Satan, tels que les sacrifices humains, parce qu'ils existent, ainsi que le cannibalisme, remplissent rapidement la coupe d'iniquité. Le reporter du nom de Paul Harvey disait qu'il y a des enfants que nous savons qui disparaissent, qui n'a pas lu un jour ou entendu à la télévision qu'un enfant a disparu. Et ces enfants sont torturés jusqu'à être tués, ensuite à être sacrifiés à Satan, avant d'être, et ça vous n'allez pas le croire, vous allez penser que j'invente, jusqu'à être mangés. Cannibalisme. Nous devons regarder la réalité en face. Le cannibalisme existe dans notre société moderne et soi-disant super intellectuelle. Encore ce matin, à la radio, ce soir ce sera à la télévision aux nouvelles, un attentat en France. Et on a carrément coupé la tête à un homme. L'adultère, l'idolâtrie, la violence, le crime, la folie, et même aujourd'hui, il y a de la folie parmi nos animaux, certains deviennent même méchants et dangereux. Le suicide, le meurtre collectif de familles entières, les fusillades dans les lieux publics, les enlèvements par terroristes, les prises d'otages avec parfois le meurtre de personnes innocentes, tout cela revient à une constatation. Et la Bible dit « La fin est venue pour mon peuple ». Amos, le livre de Amos, chapitre 8, verset 2. On kidnappe des enfants d'une école, chrétiens, et on les force à devenir musulmans islamistes. Et voir certains d'entre eux des bombes vivantes pour faire des attentats et les autres pour la dérive sexuelle. Chers amis, cette génération, c'est vraiment celle dont nous parle le psalmiste dans le psaume chapitre 102, verset 18, où il est dit que cela sera écrit pour la génération à venir, et le peuple qui sera créé louera l'Éternel. Dans le texte hébreu original, il est écrit, cela sera écrit pour la dernière génération. Un peuple sera donc créé qui louera Dieu. Selon nos péchés et nos rébellions, Dieu pourrait détruire la plus grande partie de l'humanité comme il l'a fait au temps de Noé. Mais nous sommes à la fin du temps de la grâce. Et cette grâce de Dieu est tellement grande que lorsque le péché abonde, la grâce surabonde, mais beaucoup d'exégètes de la Sainte Parole de Dieu disent que les temps de jugement, donc la dernière phase, a déjà commencé. Comme le péché a régné par la mort, ainsi aussi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 5, verset 21. C'est à cause de cette abondance immense et surabondance de grâce qui surpasse et qui dépasse toute transgression humaine que nous pouvons encore nous attendre à un réveil. Nous qui aimons le Seigneur, nous pouvons avoir confiance qu'il se lèvera et qu'il aura compassion de Sion, car c'est le temps d'user de grâce envers elle, car le temps assigné est vraiment venu. Psaume 102, verset 13. Le temps assigné veut dire le temps favorable. Ça veut dire le temps propice. C'est un temps très court et percutant. Ce puissant réveil final, j'ai dit final, ne durera pas longtemps, car Dieu mènera l'œuvre à sa fin et il fera une affaire abrégée sur la terre. Romains chapitre 9, verset 28. Ce réveil sera comme une énorme explosion atomique dont le nuage couvrira la terre entière, car comme le dit le prophète Joël, il arrivera au dernier jour que je répandrai mon esprit sur toute chair. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Ce grand nuage nucléaire du Saint-Esprit qui entraîne le changement radical des vies se posera tel une immense retombée radioactive sur toute la planète entière. Il y aura des signes et des prodiges sur la terre ainsi que dans les cieux, tels que du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et une ancienne prophétie catholique, elle dit que les ténèbres dureront 3 jours et beaucoup mourront d'une mort terrible en se mordant la langue de douleur, selon dit Offenbarung, selon Apocalypse, chapitre 16, verset 10. Des nations entières se repentiront et se tourneront vers le Seigneur. Cela ne me surprendrait pas que même l'Inde devienne finalement chrétienne. Qu'est-ce qui arriva à Éphèse lorsque l'apôtre Paul prêcha dans cette ville païenne et pourtant totalement idolâtre? Ce récit, il est encore valable aujourd'hui. Vous voyez et vous apprenez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul, usant de persuasion, a détourné une grande foule, disant que ceux-là ne sont pas des dieux qui sont faits de main d'homme. Actes chapitre 19, verset 26, car vous le savez très bien, il y a quelque chose, selon des experts comme plus de 3 millions de dieux de toutes les sortes aux Indes. Par toute l'Asie, quel glorieux réveil! Dieu peut le refaire. Jamais l'humanité n'en a eu autant besoin que maintenant. Nous sommes arrivés à la fin des temps. L'Église a été engendrée par le Saint-Esprit, et cela dans les flammes de la Pentecôte, et elle sera rendue parfaite dans le feu du plus grand et plus glorieux réveil que le monde n'a jamais connu. Car, selon Ésaïe, chapitre 9, verset 5, « Car toute chaussure de guerre qu'on chausse pour le tumulte et le manteau roulé dans le sang seront un embrasement, seront la pâture du feu. » Oui, le feu de la Pentecôte se fera bientôt sentir une nouvelle fois, car le temps est venu, comme l'apôtre Pierre s'est écrié le jour de la Pentecôte quand il a dit « C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Ainsi, le Saint-Esprit en nous nous vivifie et s'écrit avec nous. C'est maintenant le temps assigné, le temps favorable, le temps pour Dieu d'user de grâce. C'est en effet la dernière génération. » Chers amis, la situation mondiale se dégrade, il faut bien le dire, de jour en jour. Alors que le mal grandit de plus en plus, la nécessité d'un réveil grandit lui aussi. Chaque jour, la situation se dégrade et elle ne pourrait être mieux décrite que de la manière dont l'a fait le prophète Joël au chapitre 1, verset 4, « Ce que a laissé la chenille, la sauterelle l'a mangé. Et ce que a laissé la sauterelle, le chélec l'a mangé. Et ce que a laissé le chélec, le locuste l'a mangé. » Joël, chapitre 1, verset 4. Ça, c'est une manifestation de désolation et de mort. Dans Deutéronome, au chapitre 11, versets 11 à 17, Dieu a mis son peuple en garde en leur disant que s'ils se détournaient de lui pour servir d'autres dieux, sa colère s'embraserait contre eux. Il les avertit qu'il fermerait les cieux afin qu'il ne pleuve pas et qu'il périrait rapidement dans, on peut dire, dans le bon pays que l'Éternel leur avait pourtant lui-même donné. La responsabilité parentale n'existe, pour ainsi dire, plus du tout. Vous savez que un papa ou une maman n'oserait même pas donner une petite tape sur le derrière ou sur la joue d'un garçon ou d'une fille, car il ou elle, le garçon, a le droit de porter plainte pénale. De nos jours, les délits sont préparés à la maison, car les parents n'éduquent plus et n'ont même pas le droit d'éduquer leurs enfants. ils les mettent au monde, puis ils s'en désintéressent totalement. Évidemment, je comprends certaines choses. Quand j'ai vu personnellement un gamin de 12 ans dire à sa maman, j'ose pas dire le mot qu'il a dit, tellement que c'est vilain et honteux, espèce de « si tu me donnes pas 20 balles, je te fous une paire de claques ». Chers amis, pour survivre, les enfants se joignent maintenant à des bandes dangereuses. La drogue suscite des bagarres de rue, crée la terreur dans nos grandes villes, et tout cela parce que nous désobéissons dans nos foyers aux commandements de Dieu. Il nous a ordonné d'élever nos enfants dans les voies de la vérité et de la justice. Il a donné les règles garantissant une vie de famille heureuse et paisible. Et vous, les enseignerez à vos fils en leur parlant, quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Deutéronome, chapitre 11, versets 19 et 20. Donc les enfants élevés dans l'amour et dans le respect de Dieu ne s'égareront pas facilement. Élevez le jeune garçon selon la règle de sa voix. Même lorsqu'il vieillira, il ne se détournera pas, selon le Proverbe, chapitre 22, verset 6. Mais cela nous avons, en quelque sorte, omis de le faire. Oui, et à un moment donné, quelque part sur la route, au milieu du tumulte de la vie quotidienne, eh bien nous nous sommes éloignés de notre sainte vocation. Même chez certains chrétiens, l'autel est remplacé tout simplement par le poste télévision. Plutôt que la sainte parole de Dieu, ils affichent sur les murs des stars du rock ou quelques autres sexes symboles. Le péché, il est même, croyez-le ou pas, il est même au sein de l'Église. L'ombre du destructeur s'est glissée jusque dans l'Église par la promiscuité. Même nos églises et celles où l'accent est mis sur la sanctification sont remplies de jeunes vivant dans le péché, des pasteurs, écoutez bien, des anciens et des membres de chorale vivent carrément dans l'adultère. Et ceux qui prêchent la véritable sainteté sont aujourd'hui très mal vus. La génération actuelle ignore absolument tout de la puissance de Dieu. Elle ne sait même pas que le mot réveil s'applique à autre chose qu'à une semaine de mission avec un évangéliste de passage. Si l'Esprit de Dieu commençait à se manifester réellement, alors la majorité de cette génération de chrétiens sortirait même de l'Église, confuse ou en colère, peut-être même les deux à la fois. Et les pasteurs feraient évidemment un compromis, stoppant ainsi un certain enseignement qui attriste, bien sûr, ceux qui se sentent visés. Alors il faut les caresser de mots de bonté, d'amour, que Dieu aime tout le monde tel qu'ils sont, n'importe de ce qu'ils font, Dieu les aime. Ça, pour moi, j'appelle cela un bon Dieu. Mais un bon Dieu n'est pas le Dieu de la Bible. C'est différent. Je vous laisse à réfléchir un peu sur cette première étude de la série du réveil à travers le monde, et nous terminerons ensemble, si vous le voulez bien, par la prière. Prions. Voici venir le jour où notre Seigneur se prépare au dernier repas avec ses disciples à bénir les siens comme étant le grand prêtre et à leur léguer sa paix, à poser le gage et le sceau de notre rédemption dans la scène de la nouvelle alliance. Ce qui s'est passé autrefois doit donc nous arriver de nouveau aujourd'hui, et ce que les disciples voyaient des yeux de leur corps doit nous être présent à ceux de l'esprit. Rassemblons donc nos cœurs dans un recueillement véritable, abandonnons tout souci et tout sentiment dispersé au gré d'un caprice passager, que nos âmes fassent vraiment silence devant le Seigneur notre Dieu qui veut nous parler. Regardons à Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Seigneur notre Dieu, devant qui 1000 ans sont comme un jour, devant qui l'avenir est comme le présent et le passé comme aujourd'hui. Fais-nous entrer avec les disciples à Jérusalem et monter dans la chambre haute. Fais-nous prendre place à table avec eux, voir avec eux, écouter avec eux, participer avec eux au repas de ton éternelle alliance. Oui, Père Céleste, montre-nous le Christ, notre grand prêtre, que notre œil le contemple et que notre cœur s'en nourrisse. Que Jésus-Christ puisse faire briller sa lumière en nous. Parle, notre Seigneur, car nous désirons t'écouter. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à toutes ces séries d'études. Il y en a beaucoup, plus de 3000 CD et de très nombreux sujets, tels que la démonologie, tels que le ciel, l'enfer, et tellement d'autres sujets fabuleux. À bientôt à nouveau, chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Et sachez tout simplement que je vous aime d'un amour agapé, mais, disons la vérité, même si je vous aime sincèrement et beaucoup intensément, c'est rien à côté comme votre Père Céleste vous aime chacun et chacune d'entre vous, né cassé ou pas. À bientôt. Au revoir.